Kiosque Magazine.
Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes du Canal M. C'est le Kiosque Magazine du lundi 23 mars qui est commencé.
Oui.
Et le trio qui était là il y a 2 mois et demi est à nouveau réuni en studio.
Oui. Tout à fait.
Oui, c'est
oui,
bien.
Franceline Nieuviat. Bonjour, Franceline.
Oui, bonjour.
Serge dit Sergio Hamelin.
Ah, maintenant, oui.
Si. Oui, c'est ça. Roger Roy, celui qui vous parle. Et le quatrième mousquetaire est en régie. Mais là, il s'appelle Jean-Sébastien Laliberté. C'est lui qui va nous guider pour l'heure qui s'en vient. Et nous avons des sujets toujours intéressants à vous proposer le lundi au rayon de la culture et de la société. Franceline, qu'est-ce que vous avez à
oui,
nous proposer?
Oui, eh bien, écoutez, mon premier sujet sera un sujet sur la nutrition. Astuces beauté pour le printemps et quelques conseils pour contrôler son cholestérol. C'est écrit par Isabelle Huot dans le Bel Âge de avril 2015. Et puis, je vous parlerai de la sieste et de la procrastination dans des articles liés, écrits dans la Presse Plus de ces jours-ci.
Bon, et puis moi, ben, je vais poursuivre avec... Dans la revue Virage.
Virage.
Oui, Virage. Ça s'appelle l'article « Boire pour diluer l'ennui ». Ça a été écrit par Sophie Gagnon. Et puis, il y a l'autre article également, « L'arthrose ». C'est pas très drôle. Par Sophie Gagnon également, dans la revue Virage, toujours.
Bon, ben moi, je suis dans le mental pour un de mes textes.
Hein. Vous êtes mental?
Mental, oui. Le monde terrifiant des cerveaux qui dérapent.
Ah bon? Bon,
c'est terrible. Premier texte. Mais le premier texte, ça fait longtemps que Jean-Sébastien attend que j'en parle. Il s'attend à ça. Le palmarès du pouvoir, c'est dans l'actualité du 1er avril. Alors, il s'agit d'une liste, c'est un palmarès du pouvoir établi par les journalistes Alec Castonguay et Jonathan Trudel. Je ne ferai qu'identifier et donner leur rang aux personnalités plus connues du public en disant quelques mots des personnes qui œuvrent, mais moins, sous les projecteurs.
Ah.
OK. Premier rang, bien sûr. Le docteur Philippe Couillard. Au deuxième rang, un autre médecin qui l'eut cru. Bon, il s'appelle, lui, Juan Roberto Iglesias.
Ah oui?
Oui. C'est le confident du premier ministre. C'est le seul ami qui reçoit les confidences du premier ministre et les angoisses de Philippe Couillard depuis de nombreuses années. Il a été nommé secrétaire général du gouvernement, le plus haut fonctionnaire de l'État. De son bureau, il est situé dans le même immeuble que celui du premier ministre. En retrait du Parlement, il dirige la fonction publique. Les deux hommes enseignaient à la faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke lorsque Philippe Couillard s'est lancé en politique en 2003. Le docteur Iglesias faisait alors partie de la présélection de candidats au poste de sous-ministre de la Santé. Philippe Couillard a incité le premier ministre Jean Charest à le nommer et Iglesias a occupé le poste de sous-ministre de la Santé de 2003 à 2006. Les deux amis sont de nouveau réunis pour un mandat qui s'annonce corsé sur le front des finances publiques. Au troisième rang, le ministre des ministres, il est très connu celui-là, Jean-Marc Fournier. Au quatrième rang du palmarès, le réformateur pressé, c'est Martin Coiteux. Martin Coiteux, qui, quand il était professeur d'économie à HEC Montréal, il avait qualifié d'occasion manquée l'échec de la réingénierie de l'État qu'ambitionnait de réaliser le premier ministre Jean Charest à son arrivée au pouvoir en 2003. Il a souvent dénoncé l'écart entre les dépenses publiques du Québec et celles du reste du Canada et qualifié de luxe de nombreux programmes sociaux. Il est très critique des CPE. Au cinquième rang dans ce palmarès, la garde rapprochée du premier ministre, Jean-Louis Dufresne, le chef de cabinet. Il est appuyé par Jean-Pascal Bernier et Joanne Whitton, directeur de cabinet adjoint. Harold Fortin, 34 ans. C'est un attaché de presse, mais il connaît très bien Philippe Couillard. Il a travaillé longtemps avec lui. Au sixième rang, Madoc Barrette. Madoc, oui. L'actualité l'a surnommé Madoc Barrette en 2010, à l'époque où il présidait la puissante Fédération des médecins spécialistes du Québec. C'était un clin d'œil à Maurice Madoc Vachon, lutteur qui aimait le spectacle et ne rechignait pas devant une bonne bagarre. Depuis son arrivée à la tête du ministère de la Santé et des Services sociaux, Gaëtan Barrette ne fait pas mentir le titre du portrait que nous lui avions consacré. Madoc Barrette. Au septième rang, les super sous-ministres, il s'agit d'Yves Ouellette, Michel Fontaine et Luc Monti. C'est aux affaires, aux finances, au conseil du Trésor. Et M. Ouellette, lui, est ministre de... le grand patron des achats et de la gestion informatique. En huitième place, l'homme de confiance du premier ministre Charest, Christian Lessard, secrétaire général associé responsable de diriger les communications de tous les ministères, un secteur névralgique pour maintenir la cohérence dans les messages du gouvernement. Neuvième place, le duo choc, je n'ai pas à ajouter grand-chose, Denis Coderre et Régis Labeaume au pouvoir. Dix, le bulldozer, Pierre-Carl Péladeau. Le déterminé, 11e rang, François Legault. Au 12e, l'arbitre suprême, c'est le juge en chef de la Cour suprême du Canada, Beverly McLaughlin. Au 13e rang, le clan le plus puissant, évidemment, la famille Desmarais. Au 4e rang, le premier trio de la finance, Michael Sabia, président de la Caisse des dépôts et placements du Québec. Monique Leroux, qui est la présidente du Mouvement des Jardins. Et M. Louis Vachon, président-directeur général de la Banque nationale. 15e place, en 15e place, c'est la force tranquille, Pierre Arcan, c'est un ministre assez connu. 16e rang, le pape de la télé. De qui s'agit-il? De Guillaume Lepage, évidemment. Au 17e rang, le médiacrate. Médiacrate, c'est un néologisme, je crois. Il s'appelle Jean Lapierre. Dans les hautes sphères des partis politiques, il est l'objet de toutes les attentions. Il est une constante préoccupation car il est un des rares commentateurs qui peut faire bouger les votes, disent les politiciens. Au 18e rang, c'est l'indispensable, mais il n'est toujours pas nommé, c'est le prochain directeur de l'Hydro-Québec, parce que Thierry Vandal a démissionné. Au 22e rang, le vert qu'on écoute, VERT, c'est Stéphane Guilbeault. 23e rang, le gardien des Sceaux, c'est André Pratt. Hein? Les journalistes de l'actualité disent « Les éditorialistes n'ont plus autant de poids qu'auparavant quand les journaux étaient les principaux vecteurs d'information. Mais lorsque le PLQ est au pouvoir, André Pratt influence les troupes libérales, autant les députés que les militants. » 24e rang, le philanthrope capitaliste, c'est Claude Chagnon. Peu d'organismes de charité peuvent se targuer d'influencer directement des politiques sociales du gouvernement. C'est pourtant le cas de la Fondation Lucie et André Chagnon, l'une des plus importantes au pays, dotée d'un capital de 1,6 milliard de dollars, provenant de la vente de Vidéotron à Québecor en 2000. Et finalement, glaçage sur le gâteau, 25e rang, l'icône, France Charbonneau.
Alors maintenant, quelques astuces beauté pour le printemps. En effet, les beaux jours se dessinent et si l'on mettait quelques aliments beauté au menu, histoire d'avoir une bonne mine pour la saison. Parce c'est que le printemps est arrivé.
Oui, ça fait long. C'est long à dessiner quand même, le beau temps.
Alors voilà, mes 5 trucs beauté, donc c'est écrit par Isabelle Huot, qui est docteur en nutrition. Premièrement, boire au moins 1,5 litre d'eau par jour. Rien de tel qu'une bonne hydratation pour donner de l'éclat à la peau et au teint. Deuxièmement, ajouter du germe de blé au menu. On aime sa richesse en gras essentiels et en vitamine E, des alliés pour une peau et des cheveux souples. Mon conseil, ajouter chaque jour 15 ml, c'est-à-dire une cuillère à soupe, de germe de blé à ses yogourts, compotes ou céréales. Troisièmement, garnir son assiette de fruits et de légumes colorés pour faire le plein d'antioxydants, lesquels freinent le vieillissement. Son conseil, consommer 3 fruits par jour, dont au moins une portion de petits fruits, bleuets, fraises, framboises, mûres, et 5 légumes, dont au moins un légume orangé, patate douce, carotte, courge, et un légume vert, foncé, épinard, cresson, brocoli. Manger du poisson gras 2 fois par semaine, les études le montrent, les grands consommateurs de poissons riches en oméga 3, comme le thon, le saumon, le maquereau, la sardine, ont la peau moins ridée que les autres. Avec en prime leur potentiel anti-inflammatoire, les poissons gras sont véritablement des atouts beauté. Cinquièmement, manger souvent mais peu. De gros repas affectent le travail de digestion et un foie engorgé donne mauvaise mine. Mon conseil, 3 repas légers et 2 ou 3 collations. Idéalement, on devrait manger toutes les 3 heures sans jamais se sentir trop plein. Réduisons aussi notre consommation de sucre ajouté. Pour améliorer notre santé, nous devrions, selon la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, réduire considérablement notre consommation de sucre ajouté. Actuellement, 13% de nos calories proviennent des sucres ajoutés, alors qu'un maximum de 10%, mieux encore de 5% est conseillé. Concrètement, nous ne devrions pas dépasser 6 à 12 cuillères à thé de sucre ajouté par jour, soit l'équivalent contenu dans une seule canette de boisson gazeuse. Les sucres ajoutés proviennent essentiellement des boissons gazeuses, des confitures, des biscuits, gâteaux, les aromatisés et friandises. En réduisant notre consommation d'aliments riches en sucre, nous réduisons du coup notre apport calorique, ce qui nous donne un bon coup de pouce pour vieillir en santé. Et vous savez, 40% des Canadiens de 40 à 59 ans ont un taux de cholestérol total nuisible à la santé. Et aussi, 30% des Canadiens ont un taux de bon cholestérol anormalement bas. Et 27% des Canadiens de 20 à 39 ans souffrent d'hypercholestérolémie. Alors, voici 7 stratégies pour abaisser le cholestérol. Une saine alimentation devrait apporter entre 20 et 35% de calories sous forme de lipides, soit de 45 à 75 grammes de gras par jour chez les femmes et entre 60 et 105 grammes par jour chez les hommes. Mais c'est la qualité des gras qui est plus importante que la quantité quand il est question de cholestérol sanguin. Alors premièrement, on évite les gras trans. Il s'agit de gras ajoutés par l'industrie aux produits alimentaires. On trouve des gras trans dans les aliments préparés avec du shortening ou de l'huile végétale partiellement hydrogénée. Les gras trans font augmenter le taux de mauvais cholestérol tout en abaissant le bon cholestérol. Deuxièmement, réduire la consommation de gras saturés. On les trouve principalement dans les aliments d'origine animale, la viande, le fromage, les charcuteries, œufs, beurre, crème, ainsi que dans les huiles de palme et de coco. Bien que leur influence soit moindre qu'on la jadis pensée, ils sont quand même à limiter. On opte pour des viandes maigres et des produits laitiers à faible teneur en matière grasse. Troisièmement, incorporer au menu quotidien des gras insaturés, sains pour la santé cardiovasculaire. Ce sont les huiles d'olive ou de canola, les noix, les graines, l'avocat et le poisson qui en contiennent des doses intéressantes. On augmente sa consommation de fibres. Les fibres, spécialement les fibres solubles, qui se lient au cholestérol dans l'intestin et diminuent son absorption, sont salutaires pour la santé cardiovasculaire. Une consommation journalière de plus de 2 g de fibres solubles est recommandée pour abaisser le cholestérol. On limite aussi son apport en cholestérol alimentaire. Bien que l'influence du cholestérol alimentaire sur le cholestérol sanguin fasse l'objet d'un débat, il est sage de respecter les recommandations au sujet de la consommation de cholestérol alimentaire, 300 mg par jour au maximum et 200 mg pour les individus à risque. On trouve ce cholestérol alimentaire dans les abats, surtout la cervelle, les viandes grasses, les jaunes d'œufs, les crevettes. Certaines personnes réagiraient beaucoup plus au cholestérol des aliments que d'autres. Sixièmement, bouger contribue au maintien d'un taux normal de cholestérol. Faire de 30 à 60 minutes d'activité physique par jour, quelle que soit cette activité, est profitable. La marche, le yoga, le jardinage et la pétanque vous procurent de plus en plus un état de bien-être et un maximum d'énergie.
La pétanque.
Oui,
la pétanque,
et le jardinage. Maintenir un poids santé. Un surplus de poids avec un indice de masse corporelle supérieur à 25 augmente significativement le risque d'hypercholestérolémie. Atteindre et maintenir un poids santé est essentiel non seulement pour la gestion de son taux de cholestérol, mais également pour le contrôle des autres facteurs de risque liés aux maladies cardiovasculaires, comme le diabète et l'hypertension. Alors, en résumé, 5 aliments à mettre au menu pour mieux contrôler son cholestérol. D'abord le son d'avoine, que l'on peut ajouter au yogourt, aux céréales et à la compote de fruits. Les noix, il est conseillé d'en consommer 30 grammes, c'est-à-dire 1 once par jour, oui, de noix par jour. L'huile d'olive, on opte pour la version extra vierge afin de bénéficier totalement de ses bienfaits. Les produits enrichis en phytostérol, c'est-à-dire ceux qui proviennent des plantes. Et enfin, le vin rouge. Le vin, surtout le rouge, oui, a des vertus cardioprotectrices s'il est consommé en quantité raisonnable, cependant. Une consommation de légère à modérée, jusqu'à 2 verres par jour pour l'homme et 1 pour la femme, augmente le bon cholestérol, protégeant ainsi les artères de l'accumulation de plaques de graisse.
Et n'oublions pas la pétanque.
Et oui.
La pétanque. Il n'y a que cela.
Alors voilà, c'était donc quelques conseils santé par Isabelle Huot, docteur en nutrition, dans la revue Le Bel Âge d'avril 2015.
J'avais une photocopie.
un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine. C'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre, c'est la vie, le soleil, c'est la mort, le sommeil. C'est un piège entrouvert, un arbre millénaire, un nœud dans le bois. C'est un chien qui aboie, c'est un oiseau dans l'air, c'est un tronc qui pourrit, c'est la neige qui fond, le mystère profond, la promesse de vie. C'est le souffle du vent au sommet des collines, c'est une vieille ruine, le vide et le néant. C'est la pie qui jacasse, c'est l'averse qui verse des torrents d'allégresse. Ce sont les eaux de mars, c'est le pied qui avance, à pas sûr, à pas lent. C'est la main qui se tense, c'est la pierre qu'on lance. C'est un trou dans la terre, un chemin qui chemine, un reste de racine. C'est un peu solitaire, c'est un oiseau dans l'air, un oiseau qui s'oppose, le jardin qu'on arrose, une source d'eau claire, une écharde, un clou. C'est la fièvre qui monte, c'est un compte à bon compte, c'est un peu rien du tout. Un poisson, un geste, c'est comme du vif argent. C'est tout ce qu'on attend, c'est tout ce qui nous reste. C'est du bois, c'est un jour, le bout du quai. Un alcool trafiqué, le chemin le plus court. C'est le cri d'un hibou, un corps ensommeillé. La voiture rouillée, c'est la boue. Un pas, un pont, un crapaud qui croasse. C'est un chaland qui passe, c'est un bel horizon. C'est la saison des pluies, c'est la fonte des glaces, ce sont les eaux de mars, la promesse de vie. Jacques, un serpent qui attaque, une entaille au talon, un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine. C'est un peu solitaire, c'est l'hiver qui s'efface, la fin d'une saison, c'est la neige qui fond, ce sont les eaux de mars, la promesse de vie, le mystère profond, ce sont les eaux de mars, dans ton cœur tout au fond. Pas de peine, et on fin de camino. Et un reste d'itoc, et un poco sozinho. Par une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire. Par une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire.
Je vais vous parler d'alcool ce matin. Vous aimez l'alcool? Un peu, beaucoup, modérément, passionnément, à la folie. Eh bien, Sophie Gagnon, dans la revue Virage, a écrit un article « Boire pour diluer l'ennui ». Avec l'hiver qu'on a eu, oh là 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 là. Les buveurs tardifs représentent le tiers des alcooliques de 55 ans et plus. Leur consommation d'alcool n'était pas excessive jusque-là. Mais voilà qu'une retraite mal planifiée, un deuil, une séparation, la maladie ou autre perte viennent changer le scénario à donner le premier rôle à l'ennui. Plusieurs se mettent alors à tromper ce triste compagnon de vie avec l'alcool au point de basculer parmi les consommateurs à problème. Et voilà le profil des buveurs tardifs qui composent le tiers des alcooliques chez les 55 ans et plus et viennent s'ajouter aux buveurs au long cours. Officiellement, la consommation d'alcool à problème serait le lot de 11 à 14 % des aînés canadiens, les hommes représentant 60 % d'entre eux. Toutefois, et en particulier chez les personnes plus âgées, les résultats de ces recherches sous-estimeraient largement la réalité, d'autant que dans de nombreux cas, on attribuerait à l'âge des problématiques de santé plutôt liées à l'alcool, comme l'angoisse, perte d'appétit, insomnie, repli sur soi, problèmes digestifs, dépression, perte de mémoire, chute, etc. Mais il n'y a pas la pétanque là-dedans. Quoi qu'il en soit, on assiste actuellement à une augmentation significative du nombre de buveurs excessifs passés de l'âge de 55 ans, dû notamment au vieillissement de la population. Et le portrait risque de s'aggraver au fil des prochaines années, puisque les baby-boomers québécois constituent la première génération ayant grandi dans un climat de grande acceptation sociale de l'alcool qui pourrait les amener à verser plus facilement dans l'excès. L'ennemi à abattre, c'est l'ennui. Il faut savoir que l'alcoolisme constitue de loin le principal problème de toxicomanie après 55 ans. Il n'y a pas de ligne claire entre un grand consommateur d'alcool et un consommateur excessif. Cela dépend davantage des problèmes que cause cette habitude et de l'inquiétude qu'elle soulève. Toutefois, la barre des 35 consommations par semaine constitue à coup sûr une dépendance problématique à partir de laquelle une intervention de deuxième ligne est requise. À cet âge, il existe deux types de consommateurs excessifs. 2 sur 3 sont des buveurs chroniques et le troisième tiers est composé de buveurs tardifs qui buvaient selon les standards admis avant de couler dans cette mauvaise habitude après 55 ans. L'ennui est le principal moteur de la consommation excessive à cet âge-là, au cours duquel les conflits non réglés du passé tendent également à refaire surface. Analyse Ronald Lambert, travailleur social au programme 55 ans et plus du Centre de réadaptation en dépendance de Montréal, un organisme public tel qu'il en existe partout au Québec et dont les services sont gratuits. Or, l'ennui est exacerbé par la bonne dose de temps libre qui s'ajoute au quotidien au moment de la retraite ou d'une mise à pied. Des pertes comme un deuil, une séparation, des problèmes de santé augmentent la solitude, l'isolement et l'inactivité, incitant du coup ces buveurs non problématiques à boire davantage pour geler les émotions désagréables qu'ils ressentent. Alors, stopper la consommation Q-sec à ce point-là est très difficile. Et il faut du courage pour demander de l'aide, car un long processus, souvent parsemé de rechutes, attend celui qui veut se libérer de l'esclavage de la bouteille. La première étape pour quelqu'un qui est admis dans un centre de réadaptation en dépendance est le sevrage, sous surveillance médicale d'une durée de 10 jours environ. Ensuite, un suivi est fait en externe pendant 6 mois à 1 an, selon une approche globale. Les patients sont aussi invités à participer à différents groupes d'entraide et à un programme leur permettant d'élaborer un projet de vie. Ce dernier élément est central car si l'on ne change rien à son style de vie, si l'on ne fait rien de différent une fois à l'extérieur, si l'on ne fait pas la paix avec son passé d'une façon ou d'une autre, on risque fort de retomber, résume M. Lambert. Le travailleur social précise, d'ailleurs, que moins de 10% vont réussir du premier coup à se départir de leur dépendance. Il ne faut pas voir les rechutes comme des échecs, mais comme des étapes d'un processus de détachement qui mènera à la liberté à force de persévérance. Alors ici, qu'est-ce qu'on dit? Une enquête réalisée en 2012 par l'organisme Éduc'alcool a révélé notamment que 10% des buveurs réguliers au Québec ont senti au cours de la dernière année que leur habitude nuisait à leur santé, et que 6 à 7% ont dit boire des quantités excessives d'alcool sur une base hebdomadaire. Plus on vieillit, plus on doit boire de l'eau, mais pas de l'alcool. Les directives de consommation d'alcool... Ah, qu'est-ce que vous disiez?
Je disais que je vous l'avais dit dans l'article
ben
précédent.
Ben oui, ben voilà, c'est pour
boire
faire...
Boire 1,5 litre d'eau
oui,
par jour.
Ben oui, alors les directives de consommation d'alcool à faible risque ne constituent pas des objectifs, mais bien des limites, indique M. Sassy. Les aînés ont intérêt à se tenir en deçà des limites proposées à la population en général, car à quantité égale, ils ressentent plus rapidement davantage et plus longtemps les effets de l'alcool que leurs cadets.
Ah oui?
Eh bien voilà, c'était « Attention à l'alcool, arrêtez de boire pour diluer l'ennui ». Thank you.
Alors, quelques brèves. D'abord, à propos de l'avortement. Prudence ou politique ? Une fois de plus, le ministère de la Santé du Canada remet à plus tard sa décision d'approuver ou non la pilule abortive, couramment appelée RU486. Ce médicament, qui bloque l'action de la progestérone et provoque l'interruption de la grossesse au cours du premier trimestre, est autorisé dans 57 pays, dont la France, où plus de la moitié des avortements sont pratiqués avec la pilule abortive, et les États-Unis, c'est 20% des avortements. Le RU486 est à l'étude au Canada depuis plus de 2 ans. Santé Canada prévoyait de se prononcer au mois de janvier 2015, mais a annoncé que finalement, il ne trancherait pas avant décembre. Certains observateurs, favorables à l'utilisation du médicament, se demandent si le gouvernement Harper ne préfère pas reporter la décision après les élections pour éviter de se mettre à dos les électeurs pro-vie, peut-on lire dans un éditorial du Globe and Mail.
Et puis, allez-y.
Allez-y, c'est votre tour.
Alors, 4, c'est le chiffre. C'est le nombre de litres d'eau nécessaire à la production d'une seule amande.
Ah, mon Dieu.
4 litres. En Californie, où sévit une sécheresse extrême, les producteurs visaient tout de même une récolte record de 953 millions de kilos en 2014. Pour l'environnement, les conséquences sont désastreuses. Combien faut-il de litres d'eau pour produire 1 kilo de viande de bœuf? 13 500 litres d'eau. Ben. Du riz en rizière inondée, ben là, on y va pour 5 000. Hein? Des amandes, ben voilà. 4 000 litres d'eau pour 1 kilo d'amandes. Pommes de terre, et là on tombe. 590.
Ah, ouais. Mangez des patates.
Allez, le blé, 590 aussi. Alors, mais pour les amandes, 4 000, hein?
Ben oui, il va falloir que je coupe ma consommation de pistaches. Hein? Ben oui, j'encourage.
Ça fait rapport.
Ça va, oui, ça crée beaucoup de dépenses.
Ah,
ça
coûte joies, très cher. Que...
des maximes maintenant. Ne pas voir, c'est par l'homme des choses. Ne pas entendre, c'est par l'homme de l'homme. C'est Emmanuel Kant qui dit ça. C'est très profond. Hein? Je peux le répéter, Serge, si vous voulez.
Non, ça va aller.
Le vrai courage, c'est la prudence. C'est Euripide qui disait ça. Euripide, c'est un poète tragique grec. Ça fait longtemps, ça.
Oui, j'ai très bien connu.
Vous écoutez Kiosque Magazine.
Alors, nous sommes de retour. Et il n'y a pas de lien avec la fin de notre dernière prestation.
Bon, heureusement.
Non, c'est ça. Le monde terrifiant des cerveaux qui dérapent.
Ah bon?
Oui, c'est ça. C'est Jacques Godbout qui signe ce texte. C'est sa chronique dans l'actualité du 1er avril. Il dit « Certains dérangements neuronaux sont devenus des noms communs. Or, Alzheimer, Parkinson, Korsakoff, Asperger... avant d'être des maladies, avaient comme prénom Alois Alzheimer, James Parkinson, Sergei Korsakov et Hans Asperger. En cédant leur patronyme, ces hommes devenaient des éponymes. C'est un auteur néerlandais qui s'appelle Douwe, D-O-U-W-E, Draisma, qui a eu l'idée de revisiter ces éponymes en consacrant à chacun une courte biographie suivie d'un portrait des malades et d'une mise à jour de la science. Il a intitulé son livre « Quand l'esprit s'égare ». Le livre s'ouvre sur le monde passionnant de ces chercheurs d'un autre siècle qui inventaient des appareils thérapeutiques de science-fiction. Par contre, insiste Draisma, faire de ces éponymes des découvreurs serait exagéré. Les recherches scientifiques s'additionnant les unes aux autres, l'heureux découvreur devait souvent sa découverte à des prédécesseurs plus modestes. L'ouvrage comporte 14 chapitres sur autant d'éponymes, qui sont comme de petits romans de vulgarisation scientifique à lire dans l'ordre de son choix. Alors, Jacques Godbout, qui a atteint quand même un âge vénérable, dit ceci au sujet d'Alzheimer. « À mon âge, la démence sénile est ce qui me fait le plus peur. J'ai donc ouvert le volume au chapitre 9 sur cette maladie qui répand la terreur. Une photographie en noir et blanc d'une personne abattue, les mains croisées sur la poitrine, illustrait la page. Le 26 novembre 1901, peut-on y lire? Alois Alzheimer se trouvait devant une patiente assise dans son lit, désemparée et l'air anxieux. Il l'interrogeait sur les raisons qu'elle avait de se trouver là, sur ce qu'elle venait de manger, et la priait de nommer certains objets, prenant des notes comme un collégien. À l'époque, les médecins conversaient avec leurs patients pour définir méthodiquement un cas. La patiente se nommait Auguste Deter, oui, 52 ans, le premier cas répertorié d'Alzheimer. Le psychiatre l'ayant fait hospitaliser allait noter les étapes de sa détérioration psychique pendant les 5 années qui ont précédé sa fin. En somme, écrit Dreissma, c'était après leur mort que le médecin était le plus utile à ses patients. Le neuropathologiste identifiait au microscope dans les coupes du cerveau les enchevêtrements fibrillaires à l'origine de la maladie. On s'étonne de la justesse des diagnostics réalisés au 19e siècle avec parfois un seul cas au répertoire. Les premiers patients d'Alois Alzheimer étaient relativement jeunes et ce n'est que vers la fin du 20e siècle, à mesure que l'espérance de vie s'allongeait, que l'on a vu cette détérioration du cerveau devenir une menace pour tous. Le remède capable de prévenir ou guérir la maladie d'Alzheimer n'est toujours pas à l'horizon. Néanmoins, on voit aujourd'hui une génération soucieuse de sa santé, dont les corps bien portants deviendront pendant de longues années les hôtes obligés d'esprits confus et dérangés. Autre chronique qu'on retrouve dans l'ouvrage de Douze Dreissma, les Jumping Frenchmen. C'est amusant, puis ça l'est moins, d'un côté, oui. Jean-Martin Charcot, illustre médecin qui travaillait à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris, accorda la célébrité à son assistant Gilles de la Tourette, non pas en tant qu'auteur d'un volumineux traité clinique de l'hystérie, mais pour la rédaction, à sa demande, d'un petit mémoire sur une maladie nerveuse caractérisée par une incoordination motrice accompagnée d'écholalie et de coprolalie. C'est en étudiant un vieux rapport sur une marquise parisienne que Gilles de la Tourette décrivit ses comportements nerveux qui nous portent à rire, car ils se manifestent hélas par des tics loufoques et des grimaces incontrôlées, parfois accompagnées de grossièretés proférées au moment le moins bien choisi. La marquise de Dampierre, bourrée de tics, recevait ses hôtes en lâchant un sonore « Merde et foutu cochon ». Gilles de la Tourette avait aussi inclus dans son mémoire un article traduit de l'anglais. En 1878, George Bayard, neurologue américain, découvrait dans le nord du Maine des bûcherons canadiens-français qui ne pouvaient s'empêcher de sautiller comme des marionnettes et de s'agiter tout en proférant des jurons d'origine religieuse que nous connaissons bien. Les Jumping Frenchmen de Beard se comportaient en somme comme la marquise, sans censure verbale aucune. Victimes de ce syndrome étonnant, les Tourettiens, avant de passer du divan à la pharmacie, auront néanmoins connu pendant longtemps le bistouri, les chocs électriques, la camisole de force et des coups, ce qui porte moins à rire, évidemment. Les mystères des crânes. Au 19e siècle, les savants mesuraient les crânes humains, les comparant à ceux des grands singes, calculant le poids des cerveaux en vue de prouver la supériorité de la race blanche. Des éponymes cartographiaient les circonvolutions de la matière grise. Brodmann dessinait les hémisphères en une cinquantaine d'aires. Broca situait dans le lobe frontal gauche l'aire du langage. La petite histoire de la maladie mentale pullule de préjugés. Les anomalies nerveuses étaient féminines. La dégénérescence morale expliquait le dérèglement psychique. Même si de nombreux neurologues et psychiatres cherchaient à humaniser les asiles, les paralysés parkinsoniens, autistes Asperger, géniaux, épileptiques victimes d'une lésion cervicale, fétichistes, érotomanes ou hallucinés ont été longtemps rejetés, méprisés et maltraités parce qu'il est facile d'accepter une infirmité physique, admettre la folie comme maladie courante, c'est avouer que l'on peut à tout moment basculer dans un monde terrifiant. Jacques Godbout, dans l'actualité.
Alors, êtes-vous de ceux qui remettent toujours au lendemain ce qu'ils doivent faire aujourd'hui ? On va parler là maintenant de procrastination comme adaptation au stress. Oui, c'est écrit par Marie-France Léger dans la Presse Plus du samedi 21 mars. On souffre tous plus ou moins de procrastination à des niveaux différents. à tel point que ce comportement a obtenu un espace au calendrier. La journée mondiale de la procrastination aura lieu mercredi prochain.
Ah.
Pensez-y. La procrastination se traduit par une difficulté à réaliser une tâche prioritaire.
On va la reporter.
Mais pas seulement à cause d'un déficit organisationnel. Son origine est aussi émotionnelle. On cherche à éviter les facteurs de stress émotif. C'est dans la nature humaine de préférer les tâches courtes qui ne demandent pas trop d'efforts. On a tous en nous le germe de la procrastination, à des degrés divers bien sûr, avance le chercheur en neuropsychologie de l'UQAM, François Richer. Et ce comportement révèle qu'on préfère ce qui n'est pas stressant, pas trop près de nos limites. Il dit « on développe une aversion pour ce qui nous apparaît comme une montagne et pour ce qui nous dérange émotionnellement, comme la réconciliation, la reconnaissance des fautes, les décisions importantes ». C'est toujours François Richer, ce chercheur en neuropsychologie, qui dit cela. Le conseiller d'orientation, René-André Hervieux, enseignant en développement de carrière à l'UQAM, croit de son côté que l'image de la procrastination est en train d'évoluer. De péjorative, cette notion est aujourd'hui beaucoup plus nuancée. Les recherches ont montré une nouvelle vision, que la procrastination est en fait une stratégie de motivation quand la date butoir arrive, indique-t-il. Choisir entre plaisir et satisfaction ? Si l'évitement de la tâche demeure le plus souvent relativement bénin, il peut aussi devenir fortement handicapant s'il est répété de manière incontrôlée. On ne peut pas toujours remettre au lendemain, car selon M. Hervieux, une procrastination trop marquée ira jusqu'à nuire au développement des compétences. Pour arriver à se motiver, c'est d'ailleurs ce qu'il dit à ses étudiants, il serait bon de faire la distinction entre plaisir et satisfaction. La satisfaction demande de retarder la gratification immédiate, rappelle-t-il. Le résultat de la procrastination ? L'action en suspens se fait dans l'urgence. C'est ce que les personnes susceptibles de procrastination ont développé pour survivre, agir à la toute dernière minute pour augmenter la focalisation, indique François Richer. Si tout le monde peut souffrir de procrastination, certaines personnes sont plus à risque. C'est le cas des hyperactifs, des personnes anxieuses, des personnes en difficulté d'apprentissage et des hypersociaux, hein, ceux qui veulent à tout prix être appréciés par les autres. La raison de cela ? L'anticipation de l'échec, d'une attaque à sa fierté ou un manque de confiance en soi, tout simplement. Alors comment faire pour surmonter la procrastination ? Selon François Richer, il existe de véritables techniques pour s'aider à passer par-dessus cet obstacle et réduire le stress d'anticipation. Sauter à l'eau pendant un court laps de temps pour voir, couper la tâche en morceaux, s'appuyer sur quelqu'un d'autre ou encore bénéficier du soutien d'un coach ou d'un tuteur pour nous rassurer et nous donner confiance. Pour René-André Hervieux, la meilleure approche pour combattre ce comportement serait de très bien cerner ses priorités face au mode de vie que l'on souhaite avoir. Être clair face à ses objectifs, se dresser une liste des choses à faire tout en demeurant gentil envers soi-même et limiter ses pertes de temps. Or, avance-t-il, l'explosion des technologies va sans doute accentuer les comportements de procrastination car elles représentent des motifs de distraction disponibles partout et en tout temps. Voilà, c'était écrit par Marie-France Léger dans La Presse Plus du samedi 21 mars. Et maintenant, à la sieste. Pas tout de suite, hein, Roger et Serge.
Non.
On y était presque à la sieste.
Non. Mais je vais vous lire un article de Chantal Guimont, qui est une urgentologue, qu'elle a écrit dans La Presse Plus du mardi 17 mars. Oui, c'est vrai, à la sieste, quelle bonne nouvelle, n'est-ce pas ? Qui n'a pas déjà rêvé de prendre une petite pause et de fermer les yeux au cours d'une grosse journée de travail ? Ou au milieu d'un week-end un peu gris ? Cela donne l'impression de s'offrir une gâterie, des mini-vacances. Eh bien, maintenant, vous avez une bonne raison de plus de le faire. Les humains ont besoin de sommeil autant qu'ils ont besoin d'eau, de nourriture et d'oxygène. Or, les Nord-Américains manquent de sommeil. À cause de nos charges de travail et de nos horaires trop chargés, nous ne dormons pas suffisamment. Les recommandations sont pourtant claires. De 12 à 17 heures de sommeil par jour pour les nouveau-nés, de 10 à 14 heures pour les jeunes enfants, de 9 à 11 pour les jeunes d'âge scolaire, de 8 à 10 heures pour les adolescents et de 7 à 9 heures pour les adultes. Afin de savoir si vous dormez suffisamment, posez-vous quelques questions. Suis-je efficace au travail, heureux et en santé avec 7 heures de sommeil par nuit? Est-ce que je me sens mieux ou moins bien après 8 heures ou 9 heures de sommeil? Les périodes de grande fatigue dans la journée et les besoins de caféine pour la traverser sont également des facteurs intéressants à prendre en considération pour évaluer si vous souffrez d'un manque de sommeil. De nombreuses études ont démontré que la sieste était profitable, que ce soit pour récupérer d'une mauvaise nuit ou pour mieux attaquer une tâche importante. Il a été prouvé que la sieste avait également le pouvoir de diminuer les effets néfastes d'un manque chronique de sommeil, notamment les sautes d'humeur, le stress et le manque de concentration. Attention, la sieste n'annule pas complètement ces effets néfastes et une bonne nuit de sommeil demeure à privilégier. Mais elle apporte malgré tout de grands bienfaits à la majorité des gens. Il y a trois types de siestes. La sieste d'urgence est celle qui est choisie lorsqu'une fatigue surprise survient, que ce soit au travail, à la maison, à l'école ou surtout sur la route. Il arrive parfois que les yeux se ferment sans qu'on le souhaite ni qu'on puisse l'expliquer. On a beau tenter de se tenir éveillé, c'est peine perdue. Dans ce cas, la sieste est de mise. Elle peut éviter bien des incidents, notamment sur la route. La sieste planifiée est celle que vous placerez à votre horaire de façon exceptionnelle si vous anticipez que votre journée sera plus longue que d'habitude. Vous avez de l'étude pour un examen ou une charge de travail plus importante qui vous obligera à rester au travail en soirée. Planifiez une sieste et la journée vous semblera moins longue. Finalement, la sieste habituelle est celle qui est systématiquement placée à votre horaire. Si vous ressentez une baisse d'énergie en début d'après-midi, il serait souhaitable de placer un repos de quelques minutes à votre horaire. Vous vivrez votre petite baisse d'énergie, les yeux clos, et reprendrez la tâche avec une nouvelle énergie. Quelques astuces. Afin que la sieste reste bénéfique, quelques trucs doivent être mis en application. La sieste devrait être de courte durée, de 5 à 30 minutes. La durée idéale serait de 10 à 20 minutes. Il faut donc bien la planifier et établir une façon de la terminer, que ce soit une sonnerie sur votre téléphone, un collègue de travail qui vous tape sur l'épaule ou l'appel de votre bien-aimé. À l'inverse, les siestes trop longues sont associées à une somnolence accrue après le réveil et à un problème potentiel d'endormissement au moment de la prochaine nuit. L'environnement devrait être propice au repos, bien aéré, sans trop de lumière ni de bruits ambiants. À cet effet, plusieurs entreprises favorisent la sieste, proposant des espaces consacrés au repos et à la détente sur les lieux de travail. Les dirigeants de ces entreprises ont compris que les travailleurs qui font la sieste sont plus performants, plus productifs et plus concentrés dans leurs tâches une fois la sieste passée. Mais vous savez que la sieste ne remplacera jamais un manque chronique de sommeil. Par contre, elle peut aider à améliorer les performances, l'humeur et le niveau d'attention. Alors, allez-y, mais juste un petit 20 minutes. Voilà, c'était donc Chantal Guimond qui a écrit cela dans la presse du mardi 17 mars.
Elle a donc bien fait.
De papelão, quanta embalagem em vão, tristeza ou desilusão. A gente tem desejos que não convém, tratados que nem gado desde bem neném. Pobre coitado de quem é
tão sentimental, tão pacato e banal. Estrelas, amor total.
social, sol suíçal. Castelo, Caras e até novela, Globo e Pelé. Como dói andar a pé. Cê só Alé, cê só Zé Mané. Sem ser Gisé, hey. A gente sente na pé, hey. Vontade de acreditar. Abrir as asas e voar. Sentimental, sonhador cordial, acreditando no bem, no mal, na paz, etc. e tal. Povo tão sentimental, vivendo um comercial, sol suíçal, sol suíçal.
Sophie Gagnon a écrit dans la revue Virage, toujours dans la chronique santé, « Mon genou ou ma hanche me fait souffrir ». Avez-vous un petit problème de souffritude de la hanche ou du genou? Eh bien, imaginez-vous que ça prend 1h30 à 2h, qui est la durée de la chirurgie, habituellement sous anesthésie régionale, et on va vous remettre un genou ou une hanche neuve. Saviez-vous ça? Que bien que dispendieuse, une prothèse coûtant entre 2 000 et 5 000 $, ces opérations comptent parmi celles qui améliorent le plus la qualité de vie des patients et davantage que la chirurgie cardiaque. À preuve, Johnny Hallyday a deux hanches artificielles.
Il y a bien d'autres choses.
Et depuis 30 ans... Ce qui ne l'empêche pas de se produire encore en concert à 71 ans.
Ah oui.
Donc, gênez-vous pas, vous avez un problème de hanche ou de genou. Ah, on va en parler un peu plus longuement. Après 60 ans, il y a encore plus après 70 ans, l'arthrose. Amène bien des gens à joindre le clan des tamalous. Ah oui.
Des quoi?
Des tamalous. Tamalous.
Ah, t'es malou.
Oui, lorsqu'elle est ressentie au genou ou à la hanche et que la douleur vient à hypothéquer sérieusement les activités quotidiennes comme la pétanque, elle peut mener à une chirurgie de remplacement de plus en plus fréquente de nos jours. Tour d'horizon avec l'orthopédiste Robert Turcotte. Si le mot arthrose fait partie de votre paysage, vous n'êtes pas seul. En effet, l'arthrose, qui est la forme la plus répandue d'arthrite, touche plus de 3 millions de Canadiens. Cette maladie, dont on ne peut guérir, consiste en l'usure du cartilage, un tissu résistant et souple situé à l'extrémité des os, qui agit comme un amortisseur et qui permet un glissement facile des os les uns sur les autres. Au fur et à mesure que le cartilage s'amenuise, on ressent de la douleur et une raideur, sinon de l'enflure et la sensation que les os frottent ensemble. Bien des facteurs de risque favorisent l'apparition d'arthrose. En tête de liste, l'âge. Environ 65 % des gens de 65 ans et 80 % des gens de 80 ans démontrent des signes d'arthrose sans nécessairement ressentir de la douleur. Estime Robert Turcotte, chef de la division d'orthopédie de l'Université McGill et président de l'Association d'orthopédie du Québec. Les antécédents familiaux, des blessures, un excès de poids, différentes maladies et des anomalies structurelles peuvent aussi favoriser la dégénérescence des articulations. Oh, c'est bien articulé, hein? Alors que l'arthrose de la hanche frappe autant les hommes que les femmes, l'arthrose du genou touche davantage les femmes.
Ah oui?
Ah oui. Bien sûr, tous les cas d'arthrose ne se terminent pas sur la table d'opération. Souvent, la combinaison de médicaments et puis la fameuse glucosamine, peut-être, je ne sais pas, d'exercices appropriés, d'activités physiques et de repos, permet de maintenir une vie active et non minée par la douleur, tout en prévenant des lésions articulaires graves. Il ne faut surtout pas cesser toute activité physique en raison de l'apparition des premiers signes d'arthrose. En effet, la marche, le vélo, la natation et la pétanque sont même recommandées. L'arthrose dégénérative se manifeste d'abord par des raideurs au lever et par des douleurs à l'activité ou debout. Puis progressivement, on ressent ces symptômes lors d'activités moindres et même lorsqu'on est couché.
Ça va mal.
Alors, quand faut-il consulter notre médecin? En présence d'un problème persistant et récurrent qui nous limite dans nos activités, dont la douleur augmente en intensité. Dans un premier temps, on prescrit des exercices spécifiques de l'activité physique, ainsi que des antidouleurs et des anti-inflammatoires, résume Dr Turcotte. Et si ces médicaments ne s'avèrent pas suffisants, d'autres mesures seront envisagées, telles que des injections à un intervalle de quelques mois. Il s'agira tantôt de viscosuppléments ayant pour but de remplacer le liquide du genou par des substances dont se nourrissent les cartilages, tantôt de cortisone, un anti-inflammatoire. Et dans certains cas, il faudra ensuite envisager la chirurgie de remplacement ou arthroplastie. Il n'existe pas d'âge butoir pour une telle chirurgie. Alors, l'arthroplastie en chiffres. De 60 à 80 ans, âge habituel au moment du remplacement de la hanche ou du genou. 6 mois, ça c'est le temps moyen sur la liste d'attente, selon les régions. Un peu moins pour un remplacement de hanche que de genou.
Oui,
la hanche, ça prend moins de temps pour attendre. De 1h30 à 2h, ça j'en parlais, durée de la chirurgie, habituellement sous anesthésie régionale, 4 jours, c'est la durée de séjour à l'hôpital, souvent moins longtemps pour la hanche. 3 à 6 mois, temps moyen nécessaire à la récupération complète, et 95%, c'est le pourcentage des gens qui auront toujours leur prothèse après 15 ans. C'est pas mal, hein?
Oui.
Alors, voyez-vous, ne vous en faites pas trop. Plus ça fait mal, consultez une petite arthroplastie entre 2 000 et 5 000 $.
Une anesthésie régionale.
Régionale.
Nouveau terme.
Oui.
Alors, quelques brèves. Votre foyer fume, vous aussi. Les amateurs de feux de foyer sous-estiment souvent le risque de la fumée pour leur santé, avance le Dr Kenneth Chapman, président du Réseau canadien pour les soins respiratoires. C'est comme la fumée de cigarette sans la nicotine, prévient-il dans le journal de l'Association médicale canadienne. Selon Statistiques Canada, 12% des Canadiens ont recours au bois pour chauffer leur maison et 4% s'en servent comme source principale de chauffage. Le Dr Chapman souligne qu'ils devraient faire ramener leur cheminée annuellement, au printemps de préférence, car les résidus sont alors plus faciles à déloger, et utiliser les clapets de façon appropriée afin d'éviter que la fumée n'entre dans la maison.
Autre brève.
Oui. Alors, 117 191 045 beaux dollars, c'est ce qu'ont coûté les commotions cérébrales à la Ligue nationale depuis 1995, selon trois chercheurs en neurosciences de l'Université Western en Ontario. Et cette somme représente les salaires qui doivent continuer à être versés aux joueurs forcés à la retraite en raison des commotions cérébrales qu'ils ont subies, rapporte le Globe and Mail. À eux seuls, Marc Savard des Bruins de Boston et Chris Pronger des Flyers de Philadelphie auront reçu près de 50 millions de dollars sans mettre le pied sur la glace.
On ne rit plus, là. Une citation qui, je pense, vaut la peine d'être répétée. « Je sais qu'un meurtre à Montréal, c'est spectaculaire pour la nouvelle, mais une région qui se vide tranquillement. C'est aussi une mort qui mérite du temps d'antenne. » Qui a dit ça? C'est Sylvain Pagé, député provincial de Labelle, à propos du montréalocentrisme des médias nationaux. Le député déplorait qu'aucun représentant de ces médias ne se soit déplacé pour couvrir une manifestation contre l'austérité qui a réuni plus de 1000 personnes à Mont-Laurier, soit l'équivalent de 250 000 personnes à Montréal, estime-t-il.
Alors, juste pour terminer, pour vous dire que la sédentarité tue deux fois plus que l'obésité, Alors, Serge et Roger, oui. Allez jouer à la pétanque.
C'est important, quand même. Il y en a un en régie qui suggère aussi la raquette.
Ah, la raquette de tennis, c'est... oui, c'est bien.
Non, la raquette sur neige,
ah, la raquette
Serge.
Tout court.
Ah oui, vous avez perdu le nom, Serge. Oui, c'était oui. Le kiosque magazine du 23 mars avec Franceline Nuviard, Sergio Hamelin oui. Et Roger Roy. Nous vous disons merci, au revoir et.
À la semaine prochaine.
Oui. Bye.